Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, heureux de vous parler en cette septième saison maintenant de la tasse de café, du balado, comme je vous disais, de LNH.com. Nouvelle saison qui s'amorce, j'imagine que vous avez hâte. Là, aujourd'hui, on est le 8 septembre, donc ça approche rapidement les camps d'entraînement qui vont s'amorcer la semaine prochaine. Et on va avoir beaucoup d'action dans les prochains jours. On part la saison assez en force, merci, avec tout ce qui s'en vient. Aujourd'hui, on vous offre un balado 100% poolers, le premier de deux épisodes. Donc, à LNH.com cette semaine, c'est la semaine des poolers. Donc, balado aujourd'hui, balado jeudi. Aujourd'hui, on va parler un peu, on va faire le tour de tout ce qui s'est passé, les gros dossiers d'un point de vue poolers. Donc, qu'est-ce qui va le plus influencer les changements de production de certains joueurs. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va y aller aussi de nos face-à-face. Donc, quel joueur c'est mieux de prendre entre un et l'autre? Si vous avez des poules face-à-face, là, ça va venir vous donner un petit peu d'aide. Et jeudi, pour notre deuxième épisode, bien là, on va y aller de toutes nos recommandations, recrues à surveiller, les joueurs qui pourraient éclore, les cartes cachées, les choix risqués et tout ça. Donc, c'est ce qui vous attend pour les deux prochains épisodes, pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode de jeudi. Et mardi prochain, bien là, on va se parler après au lendemain du tournoi de golf des Canadiens de Montréal, ce qui lance un peu officiellement, je dirais, la saison à Montréal. Donc, on va parler avec Jean-François Chaumont, Guillaume Lepage, de tout ce qui se passe, tout ce qui va s'être passé et ce à quoi s'attendre pour le camp d'entraînement. Avant de se lancer, avant d'accueillir mes deux premiers invités avec qui on va parler de poolers, eh bien, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver et abonnez-vous. Comme ça, vous êtes certain de ne pas rater un balado. On va en avoir toute la saison à chaque semaine des balados, donc des épisodes. Donc, ne ratez pas ça. Je les accueille avec moi. L'équipe, une grosse partie de l'équipe des Poolers de LNH.com. Premier, Sébastien Deschambault. Salut, Seb.
Salut, Nick.
Ça va bien?
Ça va très bien toi-même. Passez un bel été.
Ben moi, j'ai passé quand même un très bien été. Un très bel été. C'est même, c'est pas fini. Hein. Il me reste encore des vacances à prendre la semaine prochaine en partie. Mais toi, encore dans les rénovations, selon ce que tu nous as dit.
Oui, écoute, on dirait que c'est récurrent d'année en année. Par contre, la différence avec celle des dernières années, c'est que celle-là est voulue. Ouais. Elle est choisie. Elle a été volontaire. Donc ça, on va. C'est déjà un petit peu plus réjouissant. C'est pas causé par un dégât d'eau, par une infestation de fourmis ou des trucs que j'aurais pas voulu voir.
C'est ça. Tu commences à en avoir pas mal sur les épaules au niveau de tes problèmes avec la nature, je vais te dire, de la sorte.
Ce que je comprends en plus, c'est que tu es disponible les prochaines semaines pour venir m'aider vu que tu vas être en vacances.
C'est ça, exactement. Je vais venir peinturer chez vous en échange d'une promotion. Et le deuxième à jouer à nous, Hugues Marcel. Salut Hugues!
Salut Nick, salut Seb!
Ça va bien? Hey.
Ça va très bien.
Comment se passe la vie avec la petite famille?
Ça se passe bien. La seule chose, c'est que là, c'est mon retour de vacances aujourd'hui.
Mais c'est
donc,
ça, là.
Mais le problème, c'est que mon gars, dans la première semaine de mes vacances, a eu le pied-main-bouche, virus que vos enfants ont peut-être déjà eu. Donc,
oui. Laisse faire, enfant, j'ai déjà eu ça. Oui. À l'âge adulte, quand mon gars me l'a refilé, la journée de la naissance de mon deuxième, c'est là que ça a popé. Je me suis fait mettre dehors de l'hôpital.
Et je
souhaite pas ça à mon pire ennemi. C'était les quatre jours les plus misérables de mon existence.
Ben, en tout cas, mon gars pour en témoigner s'il pouvait. Il était misérable aussi. Mais ça a été une semaine de vacances à l'eau. Là. Il avait l'air de la douleur. Ça avait l'air épouvantable. On l'a géré pendant une semaine. Fait que ça a pas été, ça aurait pu être plus reposant. Mais regarde, là, il est de retour en pleine forme, donc tout va bien.
Puis là, à travers ça, il faut que tu dises à ta blonde, chérie, j'ai des poules à préparer, donc
ouais,
je te laisse avec tout ça. C'est ce que tu lui as dit.
Ouais.
Hey, on se lance, messieurs. Cette année, on a vraiment mis le paquet à LNH.com avec la section Poolers. Question de vous aider. Si vous allez sur le site toute la semaine, on va avoir des nouveaux articles. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous dire qui, selon nous, vont être les 10 meilleurs attaquants. Vous allez trouver ça sur le site de LNH.com. Aujourd'hui, c'est top 250 attaquants. Demain, on va avoir les défenseurs, les gardiens, le top 400. Recommandations. Toute la semaine, on va avoir du contenu. Donc, allez visiter le LNH.com. Nous, aujourd'hui, on se lance dossiers et joueurs à surveiller. On va faire le tour des quatre sections de la Ligue nationale de hockey. On va commencer ici à Montréal en parlant des Canadiens dans la section Atlantique. Les gars, c'était une grosse année chez les Canadiens l'année dernière, beaucoup de progression, les jeunes qui montent, tout ça. La question, c'est où est le plafond au niveau poolers pour cette équipe-là? Et il y a deux joueurs qui retiennent l'attention, on va en parler. Trois joueurs qui retiennent vraiment l'attention au niveau des questions. Le premier, on se lance, Lane Hutson. Est-ce qu'il peut, à votre avis, être encore plus productif que l'année dernière, alors qu'il va se retrouver un peu plus sous les projecteurs? L'arrivée de Noah Dobson aussi, qui va avoir sûrement un impact, et tu sais qu'on va le connaître un peu plus dans la Ligue nationale de hockey.
La réponse, c'est oui, il peut être aussi productif. J'ai toujours été celui, l'an dernier, qui prônait la patience et peut-être de prendre son gaz égal avec Lane Hutson. Et j'ai été plus que agréablement surpris par sa progression puis par ce qu'il a montré en fin de saison et même dans les séries. On parle peut-être pas de la réincarnation de Cale Makar. Par contre, il est déjà un défenseur d'élite offensivement dans la Ligue nationale. Je pense qu'on va voir une progression. Je pense pas qu'on va voir... Il va pas s'approcher du plateau des 100 points. Là. Moi, je lui donnerais aux alentours de 70 points, qui serait une légère progression par rapport à l'an dernier. Tu as parlé de l'arrivée de Dobson. Moi, je pense que la place de Hutson sur la première unité du jeu de puissance n'est pas en danger, malgré l'arrivée de Dobson. Et c'est le nerf de la guerre pour tout défenseur offensif.
Mais c'est ça aussi, là. Dobson, si Hutson a autant de succès, s'il a le premier jeu de puissance, les Poolers, j'en déduis, doivent faire attention à la production qu'on s'attend de Noah Dobson. Ce qu'on a vu chez les Islanders de New York il y a 2 ans, Hugues, t'es-tu un peu plus sceptique qu'il va pouvoir faire... Il ne faut pas s'attendre à ça là, du côté de Montréal, il va être utilisé autrement. Là.
Non, puis je veux dire, quand on regarde les statistiques en carrière de Noah Dobson, sa production tourne, avant la saison dernière où il a seulement fait 39 points dans une saison un peu à oublier pour lui et pour les Islanders, c'est plus un défenseur de 45-50 points. T'sais, il a fait 51 points en 2021-2022, a suivi ça de 49 points. Puis après, il y a eu cette année-là un peu bizarre où il a fait 70 points, où peut-être tout a comme vraiment bien tourné pour lui, mais on voit que pour l'instant, c'est peut-être plus l'exception que la règle dans sa carrière. Puis je vois pas à quel point ça pourrait redevenir la règle à Montréal derrière Lane Hutson. Puis c'est quelque chose qui s'est reflété dans nos projections pooler qu'on a faites durant l'été. Là, on a mis Lane Hutson à quoi? On a mis à 69 points. Là, je l'ai sous les yeux.
Exactement. 6 buts, 63 passes. Puis 69 points pour Lane Hutson.
Puis on a mis Noah Dobson à 47 points. Donc, cette dynamique-là où Lane Hutson reste devant Noah Dobson en termes au chapitre des défenseurs offensifs à Montréal, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Moi non plus, je vois pas Lane Hutson débarquer de la première vague du jeu de puissance. Il est trop dynamique. Effectivement, c'est pas Cale Makar, mais c'est un défenseur qui a ce profil-là, avec le coup de patin, avec sa façon de contrôler le jeu à la ligne bleue, de créer des choses par lui-même, d'ouvrir des lignes de passe pour ses coéquipiers, pour qu'ils puissent prendre de bons tirs. Donc, c'est vraiment, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de chance que Dobson prenne la première vague du jeu de puissance. Cela dit, il a quand même signé un contrat très lucratif à Montréal, 9,5 millions par année, là, si je ne me trompe pas, je suis pas trop bon dans les chiffres. Donc, je m'attends quand même à ce que, tu sais, l'année passée, la première vague du jeu de puissance de Montréal avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Là. Jouait quoi, peut-être une minute trente sur le 2 minutes. Là, peut-être que ça va se rééquilibrer. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Moi, c'est peut-être la seule chose, mais je vois quand même pas ça comme un problème pour Lane Hutson, et je vois pas ça non plus comme un avantage pour Noah Dobson. Je pense que ça va vraiment être le défenseur plus complet du Canadien, mais qui va quand même être capable d'amasser. Moi, je pense que comme on a mis 47 points, là, donc autour de ça, un gars qui va marquer des buts aussi. Donc, si dans votre pool, marquer des buts, ça vaut pour plus de points, ben Noah Dobson peut être peut-être une bonne option versus Lane Hutson, qui est plus un passeur.
Il y a deux choses qui pourraient jouer pour Noah Dobson, même s'il est sur la deuxième vague de jeu de puissance. La première, on n'a toujours pas de... Martin Saint-Louis n'a pas écrit encore à qui que ce soit quelles étaient ses intentions pour ses jumelages de défenseurs. S'il était satisfait du duo défensif d'Alexandre Guerrier et Caden Goulet, est-ce qu'il y aurait moyen de jumeler Noah Dobson avec Lane Hutson et de leur donner toutes les opportunités, toutes les mises en jeu offensives? À ce moment-là, ben, un joueur comme Dobson, dans cette utilisation-là, il serait très grandement avantagé. La deuxième, c'est comme tu as parlé d'avantage numérique. On a terminé la saison, puis on va revenir un petit peu plus loin. On a terminé la saison avec une première vague de jus de puissance qui était de Hudson, de Demidov, de Slavkowski, de Caulfield et de Suzuki. Si on décide de garder ça intact et que la deuxième vague de jus de puissance, donc Noah Dobson, est celle qui doit refiler la rondelle à un Patrick Laine quand il est en santé, avec un Bolduc qui vient de débarquer et qui vient de s'établir comme un des très bons bumpers en bon français sur l'avantage numérique, mais cette deuxième vague-là, peut-être qu'on va rétablir un peu l'équilibre parce que avec un Matheson, avec un Dobson. Donc, il y aurait moyen peut-être de ne pas voir complètement s'évaporer sa production en jeu de puissance. C'est ce qui va faire beaucoup la différence entre une saison de tout juste 40 ou de tout près de 50. Mais je pense qu'on s'accorde pour dire que c'est entre ces deux chiffres-là que ça va situer pour lui cette année.
Avant de poursuivre, je veux te dire, là, Hugues, Seb, on a participé à la mise en place, à la création de ces projections-là. Mais je soulignais Gabriel Duhamel aussi, qui était aussi de l'équipe qui a participé à tout ça. Donc, un travail à quatre pour faire le tout. Seb, t'en as glissé un mot. Patrick Laine, c'est l'autre dossier du côté de Montréal. Vous vous attendez à quoi de Patrick Laine? C'est un des grands points d'interrogation de cette saison-là parce que le potentiel est là, le vouloir ne l'est pas toujours et le corps ne suit pas toujours non plus. Donc, Laine... On l'a prédit à...
On l'a prédit, j'allais sous les yeux, à 29 buts et 49 points.
Sur une saison presque complète de 82 matchs.
Faut peut-être préciser aux pooleurs que on a quand même tenu compte là, des joueurs qu'on peut qualifier de fragiles. Laine fait partie de deux. C'est tout le temps compliqué de jouer une saison complète pour lui. Donc, c'est sûr que nous, on a fait nos projections en disant, tu sais, en le mettant pour 49 points, en disant, vaut peut-être mieux le repêcher comme un joueur de ça, là, d'une cinquantaine de points, en se disant que s'il joue les 82 matchs, ben là, c'est certain qu'on peut peut-être faire grimper sa production un peu plus. T'sais, s'il joue les 82 matchs, je pense qu'il peut facilement franchir le plateau des 30 buts, peut-être même des 35. Là, donc, c'est vraiment pas à exclure, mais c'est la grande question dans son cas.
Mais et pour atteindre ce plateau-là, ça lui prend une présence sur le premier avantage numérique, la première vague du jeu de puissance. 15 buts en seulement 52 matchs, 15 de ses 20 buts sur le jeu de puissance. Par contre, on se retrouve avec une situation où on a un Cole Caulfield et un Patrick Laine qui ont essentiellement le même rôle sur le jeu de puissance. Et quand Patrick Laine n'était pas de la formation, puis que Cole Caulfield était remis à sa position, c'est Cole Caulfield qui explosait. Alors, est-ce qu'on est obligé de... Je pense que ce que l'on a démontré l'année dernière quand Patrick Laine en séries éliminatoires s'est blessé et qu'on a mis Demidov et on a replacé Cole Caulfield et que ça a été phénoménal, je pense que ça mérite d'être revu. Et c'est sûr que ça va nuire à Patrick Laine. Moi, personnellement, j'ai des gros doutes. C'est surtout son utilisation à 5 contre 5, où l'année dernière, on le mettait quand même avec des joueurs assez offensifs. Là, cette année, si on a déjà un Demidov, est-ce qu'on lui associe un Laine à forces égales? Est-ce qu'on est capable de dire à Laine de jouer sur un trio plus défensif? Donc, est-ce qu'il se retrouve à être un genre de Mike Hoffman qu'on cache sur le quatrième trio et qu'on sort sur le power play? C'est sûr que c'est le type d'utilisation qui est pas très réjouissante pour les Poolers, mais on dirait que j'ai de la misère à avoir une utilisation optimale pour Laine cette saison à 5 contre 5.
T'en as parlé, Seb, Demidov, c'est l'autre question chez le tricolore. Ivan Demidov, ça a été tellement impressionnant comme départ avec son premier match. Il avait eu un but, une passe avec le tricolore. Bon, les séries éliminatoires, il faut faire attention. Là, quand même, il y a un rythme à avoir une fois qu'on entre en séries éliminatoires qu'il n'avait pas parce qu'il arrivait de la KHL et tout ça. Demidov, on va en reparler beaucoup aussi dans le prochain épisode au niveau des recrues, mais Demidov, vous le voyez où? Et est-ce qu'il part favori pour remporter le trophée Calder?
Ouais, je pense qu'il part favori pour remporter le trophée Calder. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'on le voit tous à l'aile du deuxième trio. La question, c'est ce qu'il joue maintenant, comme Seb disait, sur la première vague du jeu de puissance. Comme en fin de saison dernière, ou si il va être sur la deuxième, ça va faire une grande différence dans sa production. Je pense qu'on l'a projeté pour environ pas loin de la soixantaine de points, je pense une 50, 55 et 60.
58 points pour être précis. 58 avec points. 21 buts, 37 passes, 58 points pour Demidov.
T'sais, faut quand même garder en tête que c'est un jeune joueur, puis on se souvient tous de ses débuts fracassants, mais t'sais, je veux quand même rappeler que c'était contre les Blackhawks de Chicago, là, si ma mémoire me fait pas défaut, c'est contre les Blackhawks de Chicago. J'enlève rien, je suis pas en train de diminuer ce qu'il fait. Au contraire, c'est un joueur, on sait tous que ça va devenir un joueur extraordinaire.
Je pensais que t'allais dire je veux pas diminuer les Blackhawks. Je te dirais que leur reconstruction fait qu'ils sont pas mal diminués.
Ouais, mais j'allais qu'ils ont quand même gagné ce match-là, les Blackhawks.
Oui, ils ont gagné.
Retarder la qualification des Canadiens en tir de barrage. Le fameux but qui n'avait pas été vu par l'arbitre.
Ah oui, dans le top, dans la lucarne. Oui, je me souviens.
Mais c'est ça. Donc, tu sais, je vois vraiment. Tu sais, je suis toujours prudent avec les joueurs recrues. C'est sûr que Demidov, c'est probablement la recrue cette saison qui m'emballe le plus dans les poules de hockey. Mais je me garde une petite gêne. Je pense que près de 60 points, c'est réaliste pour lui. Tu sais, pas loin de ce qu'un Matvei Michkov a fait cette saison avec les Flyers. Là, lui a fait 63. Donc on est quand même dans le même territoire en termes de production.
Moi, je suis un petit peu plus enthousiaste encore pour envers Ivan Demidov. C'est pas potentiellement avec Hudson le joueur le plus créatif de l'équipe. Donc, de se priver de cette vision-là sur le jeu de puissance. On a vu l'année dernière, dès qu'il a été inséré à la place de Laney. Je me souviens de Stephen Carberry qui, à la fin de la série, disait « Cette unité d'avantage numérique-là va terroriser les défenses adverses pendant 10 ans environ. » Il y a trop de talent sur cette unité-là. Donc, je le vois. Si, c'est toujours tout est question d'avantage numérique. Puis, l'autre question, c'est qui va être le centre de
la deuxième vague.
Du deuxième trio. Donc là, c'est...
Oui.
On s'entend qu'il devrait avoir une vocation offensive. Présentement, on penche du côté de Kirby Dack, mais bon, on verra ce qui va en être. Qui franchisse la soixantaine me surprendrait pas du tout.
Soyons francs, si les Canadiens devaient bouger avant le début de la saison, déjà là, ça influence beaucoup le nombre de points qu'un Demidov, qu'un Laine, qu'un Bolduc, tout dépendant, ça va être quoi l'unité, va apporter. Si on va chercher un joueur d'impact... Ça va peut-être être difficile un joueur d'impact, mais un joueur qui est capable d'en amener plus qu'un Kirby Dack. Écoute, Kirby Dack, je veux dire, il est tout à blessé, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, on tombe avec c'est Jake Evans, c'est Alex Newhook. C'est pas des joueurs qui sont reconnus comme des joueurs d'impact pour l'instant. Donc gardez un œil là-dessus. On a fait nos prédictions, là, nos projections en fonction de Kirby Dack comme deuxième centre, donc c'est ce que ça donne. Nick Suzuki, Cole Caulfield, les gars, vous les voyez continuer à progresser dans les deux cas. Est-ce qu'on a enfin une production? Écoutez, c'est quand la dernière fois que les Canadiens ont eu un joueur de 90 points dans leur équipe?
Kovalev? 90? Non, Kovalev a fait 84. Là, je pense que 90, il faut monter à Vincent Danfous, Pierre Turgeon.
Ça a du sens, ouais, la fameuse équipe que Réjean Houle a malheureusement détruit.
Écoute, il a fallu qu'il fasse des choix. Donc, les choix ont été tournés vers le futur de Sekou Koivu et autres. Puis, ça n'a pas eu l'impact escompté. Non. Mais, pour répondre à ta question, il y a encore la place à une certaine progression. Du côté de Caulfield, je vais me répéter, ça va passer par une utilisation optimale de ses capacités, de ses forces en avantage numérique, s'il est placé du côté gauche pour son tir sur réception. À la différence de Patrick Kleiné, Cole Caulfield est capable de redistribuer la rondelle, de feinter un tir sur réception, puis de redistribuer la rondelle, alors que Patrick Laine, il n'y a pas beaucoup de feintes dans son jeu. C'est un peu à la Ovechkin. Tout le monde sait ce qui va se passer, puis on va espérer le bloquer, mais si jamais il fallait qu'il dégaine, ben il y a des bonnes chances que ça rentre dans le filet. Donc, ça ajoute peut-être une couche à son jeu. Tient son poste dès le jour 1, c'est déjà un gros avantage d'aller chercher quelques points de plus. Il n'y a aucune statistique qui est hors norme de leur côté. Oui, ils ont des bons pourcentages de tir, mais quand c'est des joueurs qui appartiennent un peu plus à l'élite, c'est quelque chose qui est soutenable. Nick Suzuki s'est établi comme un des joueurs de centre les plus complets, les plus dynamiques, les plus fiables, les plus et la constance de jamais se blesser. On parle beaucoup des blessures depuis le début. S'il y avait une qualité que Nick Suzuki a, jamais manqué un seul match. Le seul bémol, peut-être, c'est le fait qu'on en a parlé. Le deuxième trio va avoir beaucoup de difficultés dans sa zone présentement. Si on regarde ça, que ce soit un Demidov, un Laine, même un Kirby Dack, Bolduc, qui est encore un jeune joueur. Donc, est-ce qu'on va peut-être chercher à protéger ce trio-là, puis donner un peu plus de missions, entre guillemets, défensives au trio de Suzuki et Caulfield et Slafkovski, qui se tirent très bien d'affaire contre les meilleurs éléments adverses. À ce moment-là, peut-être qu'on aurait un petit peu de recul à 5 contre 5, mais il y a trop de talent sur ce trio-là pour pas que ça continue.
T'avais raison, Seb, j'ai été vérifié. Effectivement, Pierre Turgeon et Vincent Danfousse en 95-96. 96 points pour Turgeon, 94 points pour Danfousse. Danfousse, d'ailleurs, qui, parmi les 5 derniers marqueurs de 90 points du CH, Danfousse est là 3 fois, Turgeon une fois. L'autre, je vous laisse deviner.
Mats Näslund.
Non, je te recule. Là, je vous recule jusqu'en 1992. Les 5 derniers qui ont fait 90 points, qui y manquait?
Brian Bellows?
Non.
Non?
Mais il était sur la même équipe.
Kirk Muller?
Oui, Kirk Muller. Félicitations. Seb, et bon, selon nos prédictions, Nick Suzuki va s'ajouter à ce palmarès. Donc, il serait le premier à le faire depuis 96, donc 30 ans. Hein, 30 saisons avec celle du lockout. Suzuki, on le projette à 90 points précisément, 29 buts, 61 passes. Et dans le cas de Caulfield, on le voit à 74 points, 39 buts, tout juste en dessous du plateau des 40. C'est pas pour cette année pour Caulfield, et 35 points. Ça fait le tour chez les Canadiens, ce qui retenait un peu l'attention là, au niveau des peut-être les joueurs qui vont le plus produire. Pour les autres, comme je vous dis, là, allez voir sur le site de lnh.com. On a fait, c'est au total, là, on a à peu près 450 projections, là, toutes positions confondues. Donc, ça va être disponible cette semaine. Maple Leafs, les gars, bien évidemment, le départ de Mitch Marner, tu ne remplaces pas ça. Et effectivement, les Maple Leafs n'ont pas réussi à le remplacer. Je vous demande, premièrement, qui va profiter de ce départ-là? Qui voyez-vous engranger peut-être plus de points encore ou pour le remplacer sur un des trios, tout dépendant de ce qu'on va faire?
Ben, la réponse simple, c'est personne. Il va en profiter. Au contraire, dans le sens où ce que Mitch Marner apportait sur un trio à 55 sur l'avantage numérique, c'était tout passait par lui. Là, on parle d'un joueur qui a une moyenne de 1,27 points par match à ses 3 dernières saisons, je pense, ou à ses 4 dernières saisons. On parle d'une moyenne de 104 points par tranche de 82 matchs. Enlève un talent comme celui-là et le remplacer par personne, ou à peu près, ben ça va tirer vers le bas un petit peu tout le monde, sans dire que Austin Matthews va finir avec 69 points et que William Nylander va en faire 42. Ça va être difficile de maintenir l'offensive qu'on avait en enlevant un aussi gros morceau à Toronto.
Mais est-ce qu'on pourrait pas faire voir Nylander plus souvent avec Matthews sur le même trio? L'année passée, le gros premier trio, c'était Nice avec Matthews et Marner. Tavares était souvent jumelé avec... C'est-à-dire Nylander était souvent jumelé avec Tavares. Donc là, est-ce qu'on garde un duo qui fonctionnait bien avec Tavares, Nylander, puis on garde, tu sais, souvent on fonctionne par duo, donc on garde Nice avec Matthews, puis on vient comme jumeler à ces gars-là des Bobby McMahon, des Mathias Macelli qui ont été Mathias Macelli qui était ajouté cet été. C'est des situations, moi je trouve, qui sont dures à dire pour les pouleurs. Moi non plus, je vois pas de grand gagnant officiellement que je veux dire, je parierais ma maison là-dessus, je veux dire. C'est tout le temps des situations qu'on voit un peu. Tu sais, faut t'attendre un peu, tu regardes au camp qu'est-ce qui va se passer en début de saison, puis là, tu vas voir, OK, ça s'enligne de cette façon-là. Mais comme Seb, pour moi, Marner est un joueur irremplaçable, pas de doute là-dessus. La seule chose, le seul joueur qui pourrait en profiter que je vois peut-être, c'est en avantage numérique chez les Leafs. On utilisait une formation à 5 attaquants avec Marner, Nylander, Matthews, Tavares et Nice, là, avec Marner qui est parti. Est-ce qu'on pourrait ramener un défenseur, une formation à 4 attaquants, plus un défenseur sur la première vague de jeu de puissance? Si oui, je pense que le seul qui peut occuper ce rôle-là, c'est Morgan Riley. Puis on sait que, bon, lui, ça a été des hauts et des bas, mais s'il revient sur la première vague du jeu de puissance, s'il revient à une vingtaine de points par année en avantage numérique, ben là, on pourrait parler d'un joueur qui ferait au lieu d'une quarantaine de points, en ferait peut-être une cinquantaine. Donc, moi, c'est là que je vois vraiment peut-être un point positif, positif entre gros guillemets, là, du départ de Marner, quelqu'un qui pourrait en profiter. Mais sinon, moi aussi, je trouve que ça va être difficile à remplacer.
Ouais, ben, sinon, vas-y, Nick, excuse-moi.
Je disais, dans le cas de Macelli, c'est parce que là, l'année dernière, André Tourigny ne l'utilisait plus du côté de l'Utah. Vraiment, avait perdu confiance avec lui, pas satisfait de son jeu. Mais c'est un joueur qui avait fait 57 points en 82 matchs l'année précédente. Donc, s'il peut revenir à ça, si on le met sur le premier trio, c'est un joueur qui est absolument une carte cachée. Mais je ne suis pas certain que ça va arriver. Donc, William Nylander pourrait avoir une petite progression. Regardez, je vous dis les statistiques, ou du moins plutôt ce qu'on a projeté pour eux autres. Nylander, on le voit à 96 points, 40 buts. Mathias Macelli, ben lui, on le voit à 48 points. Donc, 16 buts, on est un petit peu plus prudent. Et l'autre joueur qui, à mon avis, va être le grand perdant, c'est John Tavares. Parce que là, Tavares, on a dit, le jeu de puissance va être un peu moins bon. Et si on amène Nylander sur le premier trio, ben là, Tavares se retrouve pas mal tout seul sur la deuxième ligne. Oubliez ça, là, l'année dernière, là, Tavares avait fait
74 points l'année dernière.
74 en 75 matchs. Mais là, sur 82 matchs, on le voit à 66 points. Donc, on parle d'une chute de quoi? De 20%, 20-quelques % de production. Là, donc,
c'est vraiment le genre de situation que tu... On aimerait avoir un petit micro dans le bureau du coach pour entendre qu'est-ce qu'il pense, ça va être quoi ces combinaisons de trio, parce que
J'ai beaucoup de doutes qu'on va tout mettre nos œufs dans le même panier pour laisser après ça trois autres trios garnis. Je pense que l'option d'ailier qui va faire une rotation aux côtés de Matthews et Nyes, à commencer par Macelli probablement, parce que c'est vraiment le joueur qui a été acquis, qui a le profil le plus semblable. On va pas commencer à comparer les deux joueurs. Là, mais des fabricants de jeu d'abord, qui sont capables de bien alimenter. Puis à la limite, ça pourrait quasiment être lui qui va remplacer Marner sur le jeu de puissance. On veut absolument donner un repos à Morgan Riley, qui joue déjà un nombre incalculable de minutes sans même toucher à l'avantage numérique. Donc, c'est peut-être si je veux pas dire personne, celui qui va en gagner le plus, selon moi, ce serait plus un joueur comme Mathis Macelli.
Et finalement, pour Riley, juste, on le voit à 56 points. Donc, on verra si ça va se concrétiser. Boston, la reconstruction qui est amorcée du côté des Bruins. Et là, ça pose la question, quand on se retrouve dans un pool où on doit choisir parmi les meilleurs joueurs, un pool annuel, par exemple, on se retrouve avec David Pastrnak qui est disponible en première ronde. Vous faites quoi, les gars? Où est-ce que vous voyez David Pastrnak alors qu'il se retrouve relativement tout seul là, du côté de Boston?
Ben pour moi, il fait encore partie de l'élite de la Ligue nationale quand même. Je veux dire, l'an dernier, ça va-tu être si différent que ça de l'an dernier à Boston cette année? Il n'y avait pas grand-chose. Bon, OK, il n'y a plus Brad Marchand, là, mais c'était pas la grosse équipe autour de lui à Boston nécessairement l'année dernière.
Il a quand même fait.
Mais il a quand même fait 106 points. Ça reste un marqueur. Un marqueur d'élite, moi, je le vois quand même encore un des joueurs d'élite de la Ligue nationale. Je veux dire, on l'a projeté à 100 points cette saison. Moi, peut-être que 100 points, je trouve peut-être ça un petit peu élevé, là, tu sais, parce que faut s'entendre, là, c'est un consensus, nos projections, là. Mais tu sais, je pense qu'il va faire 90 points assez facilement.
C'est surtout de la chicane, nos prédictions. C'est une belle manière d'appeler ça un consensus. C'est de la chicane plus que d'autres choses.
Un consensus après une chicane, on va dire ça de même. Mais tu sais, ça reste un gars qui est tellement souvent au filet que tu sais, je pense qu'il va. Il va récolter son facilement son 35-40 buts. Je le vois encore parmi l'élite de la Ligue nationale. C'est sûr que bon. Est-ce que c'est un joueur de 100 points? Peut-être pas, mais je pense quand même que le 90 est atteignable pour lui.
Moi, je pense que le 100 points, ça sera pas si difficile que ça pour lui à atteindre. Pour ceux qui s'inquiètent du départ de Marchand, l'année dernière, David Pastrnak avait maintenu une moyenne de 1,22 points avant que Brad Marchand se blesse et soit échangé. Et après la transaction, a maintenu une moyenne de 1,5 points par match jusqu'à la fin de la saison. Il va retrouver Charlie McAvoy qui n'a pas été là à partir des Quatre Nations. Ça a été fait sans Marchand et sans McAvoy. L'arrivée de Casey Middlestat sur le jeu de puissance, je pense que ça peut apporter une petite touche offensive. C'est pas le joueur le plus complet au monde, mais alimente bien ses coéquipiers, a une belle feuille de route sur le jeu de puissance. Et puis quand on a un joueur exceptionnel comme lui, les joueurs ont tendance à lui remettre la rondelle, donc touche à la rondelle tout le temps. Donc, à un moment donné, même si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, il attire l'attention, va ramasser des mentions d'aide secondaire dans le pire des cas. Quand on a un joueur d'exception comme lui, je pense que ça remonte naturellement au sommet, puis il va atteindre la centaine encore une fois.
On voit tout de suite lequel tirait vers le haut pour Pastrnak et lequel tirait vers le bas pour sa production cette année. Entre Seb et Hugues, les gars, je vous amène du côté de la Floride. Les Panthers, champions de la Coupe Stanley, double champion de la Coupe Stanley. Mathieu Tkachuk devrait rater là, une bonne partie du début de la saison. Tout ça, une bonne portion. Qu'est-ce que vous voyez pour cette équipe-là? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous attendez que ce soit un peu plus calme au niveau attaque? T'sais, je pense à un Sam Bennett. À quoi il faut s'attendre d'un Sam Bennett, d'un Barkov, d'un Reinhardt? T'sais, je vous laisse les défiler là, en l'absence d'un Tkachuk.
Ben écoute, qu'est-ce que j'ai dit tantôt pour Marner? Personne? Ben ça va être encore là, personne. Écoute, les Panthers, on a vu après les Quatre Nations, ils ont présenté la pire attaque de la LNH, les Panthers de la Floride, après les Quatre Nations, en l'absence de Mathieu Tkachuk. Donc, c'est montré à quel point ce joueur-là est important pour leur équipe. Son retour en série éliminatoire, même s'il était amoché au possible, on a vu à quel point il était important. Pour répondre à ta question, par contre, le joueur qui peut en tirer profit, selon moi, est Maki Samoskevich. A été un de ceux qui ont tiré son épingle du jeu pendant la blessure de Tkachuk. Il a ramassé 14 points en 24 matchs, dont 8 sur le jeu de puissance. C'était sur la première vague du jeu de puissance. Et si vous êtes dans des ligues qui comptent les mises en échec, Samoskevich était un bon distributeur de coups d'épaule également. Donc, ça risque d'être vers lui qu'on va se tourner parce qu'il y a un peu un style qui s'apparente à celui de Tkachuk. Par contre, n'est pas un joueur de la trempe, le Mathieu Tkachuk. Donc, tous les joueurs qui gravitent, ses compagnons trio, les Barkov, les Reinhardt, on risque d'avoir un petit peu plus de difficultés que d'habitude pendant son absence. Sinon, ben vu que personne ne voulait enchaîner, tu as posé une question.
Non, mais j'allais dire Sam Reinhardt qui a eu toute une année, c'est parce que je suis en train de regarder ses statistiques de l'année dernière à Sam Reinhardt, puis quand même a fait 81 points en 79 matchs. L'année précédente, 94 en 82 avec 57 buts. C'est lequel le vrai Sam Reinhardt? Surtout en l'absence de Tkachuk, c'est lequel le Sam Reinhardt? À quoi on doit s'attendre de lui cette année?
Ben, pour moi, Sam Reinhardt,
est-ce que c'est un gars qui peut revenir dans les 90 points?
Ah, il peut, oui, absolument, pour revenir dans les 90 points. Je pense quand même que la saison de 94 points qu'il a faite en 2023-2024 tenait plus de l'exception que de la règle. T'sais, cette année-là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y avait eu un pourcentage de tirs, je me souviens, qui était assez élevé. On s'attendait tous à ce qu'il revienne un petit peu sur terre, puis c'est ce qui s'est produit, sans dire que c'était un joueur de 50 points, Sam Reinhardt. On a vu cette saison qu'il est revenu à un point par match. Il y a une différence entre 81 points et 94 points dans un pool de hockey. Donc, pour moi, c'est le Sam Reinhardt, c'est ce joueur-là, c'est le joueur qui va rouler à peu près un point par match. Tu sais, c'est pas mal ça dans ces dernières années. Bon, 94 en 2023-2024. En 2021-2022, il a fait 82 en 78. Donc, on est autour de ce seuil-là de production. 2022-2023, une petite baisse de régime avec 67 en 82. Mais tu sais, pour moi, Sam Reinhardt, ça reste ce joueur-là de un point par match. Je le repêche. Je le repêche comme un joueur d'un point par match. Maintenant, est-ce qu'il peut faire 90 points? Absolument. Là, je veux dire, il y a tout le talent au monde. Mais tu sais, cette année-là, 94 points, il avait fait 57 buts. On parle de on commence à parler de toute une commande. Là,
ouais, on est dans l'erreur statistique. Là.
Ouais, ben, c'était une des meilleures saisons de l'histoire en avantage numérique. Je pense qu'il avait inscrit 27 buts. Mais écoute, Sam Reinhardt, c'est le meilleur pour illustrer le point de Mathieu Tkachuk. Il était à 1 point avec Mathieu Tkachuk. Et sans Mathieu Tkachuk, on était à 0.86 points. Donc, le point par match se trouve là. Plus l'absence de Tkachuk va être longue, plus ça va être difficile pour tout le monde d'atteindre le point par match en Floride. Puis tu as posé une question sur Sam Bennett tantôt. Tu sais, c'est un bon exemple de faire attention à la saveur du jour, peut-être. De ne pas repêcher Sam Bennett comme le joueur de points par match en série qui a remporté le Connie Smythe, mais bien comme le joueur de 50 points qu'il est saison après saison. Faut pas penser qu'il va faire 80 points parce qu'il a fait 22 points en 23 matchs de série éliminatoire.
Non, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, on le voit à 55 points cette année au niveau de sa projection. Les gars, je vous amène dans la section métropolitaine avec une équipe qui collectionne les drapeaux rouges depuis dans toute notre évaluation là, pour cet exercice qu'on a manqué de drapeaux rouges, les Capitals de Washington. Tout a cliqué l'année dernière dans la folie la grande chasse, vers le but de Ovechkin, vers le record de but. Mais la réalité, c'est que cette équipe-là, on est tous d'accord, ne pourra pas refaire ce qu'elle a fait l'année dernière. Quand même, il reste qu'il y a beaucoup de beaux éléments à Washington. C'est un club qui est meilleur que le club qui avait fait les séries de peine et de misère il y a 2 ans. C'est peut-être pas, par contre, le club qui a terminé premier l'année dernière dans la section dans l'Est, là, dans le fond. Combien de buts pour Alex Ovechkin? C'est ça la grande question. À quel point est-ce qu'il poursuit sa quête vers le 900 et s'il est vraiment décidé vers le 1000 buts?
Moi, j'aime bien mettre des records. Hein. J'aimerais ça voir le plus de records être battus. Donc, je vais y aller avec un autre record pour Alex Ovechkin. Va connaître la meilleure saison d'un joueur de plus de 40 ans dans l'histoire de la Ligue nationale. Au chapitre des buts, record qui appartient à Gordie Howe en 1968-69, a marqué 41 buts à l'âge de 40 ans. Alex Ovechkin va fêter son 40e anniversaire la journée où le camp va s'amorcer. Je lui prédis 42 buts de mon côté, juste pour dire qu'il va battre le record de Gordie Howe.
Mais par exemple, c'est pas le consensus qu'on avait. Quand je vous disais que c'était de la chicane, là, Sébastien parle à son nom personnel et non pas au nom de tout le monde à LNH.com, parce qu'on l'a vu à 40 buts, donc le record ne tomberait pas. Je ne sais pas, toi, Hugues, à quel point tu penses que cette équipe-là va ralentir et ça va nuire à Ovechkin et à ses chances?
Je pense que l'équipe va ralentir de façon assez intense. Tu sais, je veux dire, je regarde les chiffres de ces joueurs-là, puis c'est pratiquement des meilleures saisons en carrière pour tout. Pour tous les joueurs, Strom, 82 points, c'est sa meilleure saison en carrière. Alexei Protas, 66 points, pas besoin de dire que c'est sa meilleure saison en carrière. Tom Wilson, 65, là, si je ne me trompe pas, c'est sa meilleure
saison. Il y en a 6.
Connor McMichael, lui aussi, c'est sa meilleure saison en carrière.
Pierre-Luc Dubois.
Pierre-Luc Dubois, je n'étais pas certain, mais 66 points, c'est quand même très élevé. Un Jacob Chychrun, quand même fait 47 points. Lui, pas certain, mais
oui, tout ça pour dire... Saison.
Bon, ben tout ça pour dire que c'est difficile de demander à tous ces joueurs-là de OK, vous venez de faire la meilleure saison de votre carrière, ben faites la même chose ou faites encore mieux. C'est difficile. Je regarde les pourcentages de tir de ces joueurs-là, c'est très élevé. Dylan Strom frôle le 20% à 19,5. Alexei Protas est à 21,1. Lui, Alexei Protas a un point en avantage numérique. Il a fait 65 points à 3 en désavantage numérique. Puis il a fait 60 points à force égale. Je veux dire, c'est hallucinant, excusez-moi l'expression, mais le puck-luck que les Capitals ont eu cette saison. D'ailleurs, je regardais les chiffres au chapitre du pourcentage de tirs à 5 contre 5. Les Capitals de Washington, l'année dernière, étaient à 10,6%, donc marqués sur 10,6% de tous leurs tirs à 5 contre 5. J'ai regardé, la statistique est comptabilisée depuis 2009-2010 et c'est le deuxième pourcentage le plus élevé depuis que cette statistique-là est comptabilisée. Donc, tout pour moi, dans les chiffres de cette équipe-là, hurle régression. Maintenant, je veux dire, est-ce que Dylan Strome va passer d'un joueur de 82 points à 50? Non, probablement pas. Peut-être qu'Alexei Protas va plutôt être un joueur de 50 points. Va peut-être pas être à 30 points. Il faut mettre les choses en perspective quand même, mais je m'attends à une grosse, grosse, grosse régression quand même. Je pense que ça pourrait affecter Ovechkin à ce compte-là. Je vois, moi, je le mettrais entre 35 et 40 buts juste pour me chicaner avec ça.
C'est ça, exactement. Bon, on l'a vu à 40 buts, comme je disais. Tu sais, tu parlais de Strom, on le voit à 74 points. Allez faire le tour là, sur LNH.com. Je vais juste amener un autre petit drapeau rouge. Beaucoup de gens pour la course aux recrues parlent de Ryan Leonard. Il n'a pas eu une bonne saison l'année dernière, Ryan Leonard, à Boston College. Puis à son arrivée à la Ligue nationale de hockey, il n'a rien fait de spectaculaire. Tu sais, peut-être que Leonard, finalement, va être plus un joueur défensif. Je garderai un bémol, je vais être prudent avec Ryan Leonard, mais je ne pense pas qu'il va être un facteur au niveau de la course au trophée Calder. Puis l'autre question, peut-être, il faut voir aussi s'il ne va pas y avoir un changement de donne à la ligne bleue entre Chychrun et John Carson au niveau du premier avantage numérique. Carson, il vieillit. D'ailleurs, on lui a donné 2 points de moins que Chychrun cette année. 48 pour Chychrun, 46 pour Carson. Donc, surveillez ça. C'est pas impossible qu'il y ait un changement de garde du côté de Washington, mais je pense qu'on les voit en série. Là, on y reviendra pour lors de l'aperçu de saison, du balado d'aperçu de saison, mais quand même, on pense que c'est une équipe de série, les Capitals. Chez les Blue Jackets, bon, l'année dernière, année assez avec des hauts et des bas et des tragédies, même chez les Blue Jackets de Columbus. C'était une année spéciale qui rend un peu la production de tout le monde. T'sais, qu'est-ce que c'était réellement? Quand tu es motivé comme ça, c'est inévitable qu'il va y avoir un retour un peu du boomerang là, chez les Blue Jackets. Mais à quel point vous pensez que ça va être le cas, entre autres pour un joueur comme Zach Werenski, qui a connu la saison de sa vie l'année dernière, de loin, là, et de loin.
Ben, là, écoute, on parle tout le temps du volet santé. Là, je pense que ça faisait 4 ans que Werenski n'avait pas joué plus que 85% des matchs dans une saison. Cette année, saison complète et magiquement la meilleure saison de sa carrière. Par contre, troisième dans toute la Ligue nationale au chapitre des tirs. Pas à sa position. Troisième dans toute la Ligue nationale avec ses tirs. Donc, si c'est une tendance qui se poursuit au volume et qui reste en santé, on arrive à un résultat qui est très probant. Là. Les jeunes joueurs de l'équipe ont montré de belles choses. Est-ce qu'ils vont tous progresser? C'est là qu'on a, comme tu as dit, des fois quand on surpasse les attentes, là, faut faire attention avec les jeunes équipes. On a ajouté quelques joueurs de soutien, mais rien de majeur. Donc, on prend le pari à Columbus qu'on va être capable de bâtir sur ce qu'on a fait l'an dernier. Mais avec les jeunes joueurs, on sait que c'est pas facile. Il y a eu beaucoup de... il y a eu quand même des statistiques avancées, disons, favorables à cette équipe-là. Est-ce que ça va être capable de se poursuivre? Bon, on verra. Pour ce qui est de Werenski, c'est un joueur qui a toujours été un défenseur offensif redoutable. Je ne le mettrai pas, par contre, dans le top 5. Il s'en approche. Une saison magique. Il va voir qu'il me met en face plus qu'une pour me convaincre qu'il est de la trempe des McCarr, des Hughes, des Evan Bouchard et des Victor Hedman. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à penser qu'il va faire encore un point par match cette saison.
Je regarde un peu tout ce qui s'est passé à Columbus. C'est une jeune équipe. C'est une équipe qui, techniquement, pousse. T'sais, on parle beaucoup des Canadiens de Montréal qui ont des jeunes qui poussent. C'est le cas aussi. Marchenko, l'année dernière, 74 points. Est-ce qu'on pense que ça va se poursuivre? On pense pas qu'il va y avoir une progression. On pense que ça va être stable à 75 points. Voronkov, c'était un peu la même chose. Le gros bonhomme, là, il est en train de devenir de plus en plus à l'aise. 47 points l'année passée à 73 points. On voit relativement la même chose, 56 points pour Voronkov. Monahan, on s'attend à ce que ça baisse sa production. D'ailleurs, est-ce que c'est l'année où Adam Fantilli devient le premier centre de cette équipe-là? Moi, je ne serais pas étonné. D'ailleurs, on le voit à 62 points, Fantilli, 32 buts, alors que Monahan, on le voit à 59 points. Puis, tu sais, Monahan, des ennuis de santé, là, ça ne serait pas blessure, ça ne serait pas surprenant aussi. T'as Ken Johnson aussi qu'on voit à 62 points. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. On a parlé de Werenski, mais t'as un Matechuk qui s'en vient aussi. Il y a plusieurs joueurs. C'est pas une équipe. Tu sais, c'est une équipe qu'il y a peut-être quelques cartes cachées, quelques joueurs qui peuvent surprendre. Je ne sais juste pas si ça va être assez pour faire les séries, mais je m'attends quand même à ce qu'il n'y ait pas de progression. À tout de moins, peut-être même quelques régressions. Pas de progression, mais pas de chute brutale comme on a parlé chez les Capitals. Messieurs, je vous amène maintenant du côté des Hurricanes de la Caroline. Bon, les Hurricanes, Mikko Rantanen n'est plus là. D'ailleurs, il n'était plus en fin de saison, mais tout ça, on a fait des séries. L'arrivée de Nick Ehlers, à quel point est-ce que ça change cette équipe-là et à quel point est-ce qu'on va continuer à être une puissance de la Ligue pour les Poolers? Vous voyez combien de joueurs chez les Hurricanes qui sont... excusez-moi le mot en anglais, relevant, là, qui sont des joueurs que les Poolers doivent surveiller pour peut-être plus haut qu'on le pense.
Ben, je vois beaucoup de joueurs fantasy relevant. Je m'excuse, je n'ai jamais été capable de traduire
ouais, relevant, cette... relevant, on va
le dire, là, qui ont une certaine valeur dans vos pools, disons ça comme
pertinent
ça.
Pertinent pour les Poolers.
Voilà.
Pour les Poolers, disons
en
ça
partant,
comme ça.
En partant, le mot Poolers n'est pas tout à fait francophone, mais ça, c'est d'autres choses.
Ouais.
Ça, c'est...
La beauté de la chose chez les Hurricanes, c'est que c'est une équipe qui disperse. L'entraîneur Rod Brendamo, c'est un entraîneur qui disperse beaucoup son attaque. Il aime utiliser ses quatre trios de façon relativement égale. Donc, ça fait en sorte que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent être relativement productifs. Mais tu sais, qu'on pense à des Svechnikov, des AO, des Jarvis, Stankoven, tu as parlé des Ehlers, même Taylor Hall dans certains formats de pool qui peut valoir son pesant d'or, de même des jeunes qui poussent comme les Jackson Blake, qui a été super impressionnant. Moi, je trouve que ça a été un des joueurs que je connaissais pas du tout l'année dernière, Jackson Blake, puis un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Surtout en fin de saison, je le trouvais vraiment bon. Donc, tu as beaucoup d'options intéressantes pour les pooleurs. Pour revenir à Ehlers, c'est certain que ça rend les Hurricanes meilleurs. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, j'achète peut-être pas le tout l'engouement qu'il y a autour de lui. Tu sais, j'ai l'impression qu'on le voit sortir de Winnipeg où il était un peu enterré derrière les Kyle Connor, Mark Scheifele. On a souvent dit qu'il jouait pas sur la première vague du jeu de puissance, qu'il retenait un peu sa production. Évidemment que ça va être le cas en Caroline. On lui a donné le gros contrat. Il va jouer sur la première vague du jeu de puissance. Mais je sais pas à quel point, moi, c'est quelque chose qui m'emballe tant que ça, dans le sens où, comme je l'ai dit, en Caroline, on aime répartir l'attaque. Je vois pas Ehlers voir son temps de jeu exploser tant que ça en Caroline. Donc, je sais pas, tu sais, c'est dans une autre équipe où on met un peu tout plus nos œufs dans le même panier. Peut-être là, ça sera un peu plus intéressant, mais en Caroline, où on aime, comme j'ai dit, balancer un peu l'attaque, équilibrer les choses, ça me peut-être inquiète une petite affaire de plus. Donc, tu sais, je sais pas si je le vois atteindre le point par match nécessairement. Je le verrais peut-être plus autour du 65, peut-être 70 points. Moi, c'est mon feeling personnel.
On l'a projeté à 67 points, là, d'ailleurs.
C'est ça. Bon. Puis c'est un joueur qui est souvent blessé en plus. Donc, à tenir compte pour les pooleurs. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un joueur qui va partir dans vos pools plus haut que ce qu'il va vraiment donner en réalité pendant la saison. À suivre si j'aurai raison.
Je dirais que l'arrivée d'un Nikolaj Ehlers va peut-être. On t'a parlé à quel point que Rod Brendamo aimait reporter son attaque, mais parce qu'il manquait peut-être un peu de munitions et peut-être que l'arrivée d'un Lars Ehlers. Tu sais, on a passé de Nekash. De Nekash est devenu Rantanen est devenu Stankoven. Donc de Stankoven et Nekash, il y a effectivement une petite diminution, mais l'arrivée d'un Ehlers qui s'ajoute à tout ça. Fait en sorte qu'on a peut-être les éléments maintenant pour partir deux très bons trios. On a quand même encore des joueurs qui sont capables d'évoluer sur un troisième trio dans des missions plus particulières avec le bon Jesperi Kotkaniemi en tête de liste. Mais c'est certain que ça ne va pas nuire. Puis une projection de 67 points comme on a fait, je pense que c'est pas mal on target parce qu'on sait qu'il va manquer des matchs. On peut pas. Il a fait 22 points l'année dernière sur le jeu de puissance. Il va pas en faire une tonne de plus et ça passe souvent par là par les joueurs qui, entre guillemets, avaient un rôle négligé dans leur ancienne équipe. Donc, il va aider cette équipe-là. C'est un joueur qui va apporter du dynamisme et il va retourner aux alentours des 70 points, comme on a dit.
Puis là, peut-être le dernier point que j'apporterais, les joueurs qui ont passé une longue partie de leur carrière au même endroit, qui changent d'équipe, donnez-leur un petit temps d'adaptation. Des fois, c'est pas toujours simple pour pas vraiment de raison explicable, sont ailleurs dans un nouveau système. Ouais. Je pense à le meilleur exemple qui me vient en tête, parce que je l'avais dans mon pool l'année passée, c'est Steven Stamkos. Passé toute sa carrière à Tampa Bay, puis il est rendu, bon, c'est sûr, il n'y avait pas la même équipe autour de lui, mais quand même, on n'a pas vu on n'a pas vu le Steven Stamkos qu'on est habitué de voir. Donc, tu sais, ça aussi, c'est à garder en tête. Donner un peu de temps s'il n'y a pas un bon début de saison, Ehlers, tu sais, faut garder ça en tête aussi.
Il y a d'autres joueurs chez les Hurricanes que je trouve intéressants. Celui que je vais surveiller, c'est Andriy Svechnikov. S'il peut rester en santé, ce qui n'était pas l'année dernière, on se souvient, il n'a pas eu de camp d'entraînement, manqué le début de la saison avec une blessure au genou. Moi, si tout tombe en place, Svechnikov, je pense qu'il peut enfin passer le plateau des 70 points. On l'a projeté à 72. Seth Jarvis, est-ce que la progression va se poursuivre? On l'a vu, même Team Canada. Seth Jarvis, c'est un joueur qui va être un candidat pour les Olympiques, a fait la confrontation des quatre nations. Jarvis, on l'approche du plateau des 80 points. Là. On est en train de commencer à le mettre dans l'élite de la Ligue nationale de hockey. On le voit à 79 points, deux de moins que Sébastien Aho à 81 points. Donc, comme tu as dit, Hugues, c'est pas les munitions qui manquent du côté de la Caroline, ce qui fait qu'effectivement, je suis je suis d'accord, on est d'accord que Ehlers, ça pourrait être, ne pas être le feu d'artifice que certains attendent là, du côté des Hurricanes. Maintenant, on poursuit, on va aller à la section centrale. Bon, la première question chez les dans la centrale, les Blackhawks. Bon, j'en ai glissé un mot tantôt, les Blackhawks, que ça va être une autre saison difficile, mais est-ce que pour Connor Bedard, c'est enfin la saison où il y a une certaine éclosion, ou encore une fois, il est trop tout seul pour devenir un joueur d'un point par match?
Un petit peu trop tôt encore, puis c'est pas rien contre son talent ou quoi que ce soit. Il est juste trop seul à Chicago. On n'a pas ajouté cette pendant la saison morte de munitions pour l'aider. Puis faut pas désespérer les Poolers. Rappelez-vous Nathan MacKinnon au même stade de sa carrière là, les gens commençaient à s'inquiéter. Puis il n'a pas encore fait de saison phénoménale. Il va arriver probablement la même chose à Connor Bedard. Faut prendre le temps que l'équipe autour de lui ait un peu plus de punch offensif, parce qu'on mise sur la jeunesse, et c'est très bien. Par contre, il faut y aller avec les hauts et les bas que cette jeunesse-là va nous donner. Puis Connor Bedard, malheureusement, n'est pas capable, à lui tout seul, de générer l'offensive qui lui permettrait d'atteindre le plateau des 85-90-100 points.
Oui, bien d'accord avec ça.
On l'a projeté à 76 points cette année, Bedard. Tu as parlé, Seb, des jeunes. Il y en a plusieurs des jeunes chez les Blackhawks. Frank Nazar, Sam Renzel en défensive. Est-ce que quand même, vous vous attendez à ce que ce noyau-là soit de plus en plus capable, qu'il y ait une rotation, puis que ces joueurs-là deviennent de plus en plus importants, plus de jeux de puissance, par exemple, là, dans ces cas-là, pour ces joueurs-là, ou encore là, on n'aura pas nécessairement dépassé les Bertuzzi, les Burakovsky, les Donato. D'ailleurs, Donato, gros drapeau rouge, là. Je sais qu'il va probablement commencer la saison avec Connor Bedard, mais je suis pas certain que c'est un joueur qui va pouvoir faire ce qu'il a fait l'année dernière, là.
Non, moi, je vois pas vraiment, outre Bedard, à part Bedard, peut-être Frank Nazar, mais je vois pas vraiment de jeunes joueurs qui vont vraiment valoir le détour dans vos poules, là, en gardant en tête qu'on va en tenant compte d'un pool qui a sans énormément de profondeur. Mais tu sais, disons un pool annuel, je vois pas vraiment autre chose que Connor Bedard. Un Teuvo Teravainen peut-être en fin de repêchage qui vaut la peine, mais pour moi, c'est une équipe qui va vraiment. On veut donner la place aux jeunes. Je pense qu'on va donner toutes les responsabilités qu'on peut à des gars comme Frank Nazar, Oliver Moore, Artem Nevchunov, tu en as parlé, Sam Renzel aussi. Mais pour moi, c'est pas une recette qui fonctionne dans la Ligue nationale. Quand on donne trop de responsabilités aux jeunes, ça fonctionne rarement. En tout cas, j'ai pas souvenir d'une équipe où ça a bien fonctionné. Puis généralement, surtout, ça donne pas des résultats de statistiques extraordinaire. C'est pas parce que tu joues beaucoup, qu'on t'a donné beaucoup de responsabilités, que tu vas automatiquement faire des points. Souvent, tu vas juste en avoir trop dans ton assiette, puis tu vas pas être capable de livrer. Donc, moi, c'est le piège à Chicago chez les Poolers. C'est des noms intéressants, là, les Renzel, les Nazar, peut-être un Korchinski peut-être qu'il y en a encore qui ont de l'espoir avec lui. Mais pour moi, c'est un piège. Moi, c'est une équipe de laquelle je me tiens loin dans mon pool de hockey, là, excluant Bedard, évidemment.
C'est tout. Seb, voulais-tu ajouter quelque chose sur Chicago?
Ben que tu as parlé des jeunes noms en attaque, c'est difficile, mais à la défense, là, cette brigade défensive-là, il y a plusieurs cartes là, qui peuvent sortir, puis ça va être intéressant de les suivre. Un pool à long terme, regardez Chicago. Un pool d'un an, comme Hugues a dit.
Ouais, c'est ça.
Faites attention.
D'ailleurs, les pools catégorie mythique, je pense qu'Alex Vlasic est un joueur peut-être à surveiller. C'est un grand bonhomme, mis en échec, puis tout ça, tu sais, bloqué. Dans un pool à catégorie multiple, et peut-être une carte un petit peu cachée, là, parce qu'il va y en avoir beaucoup de tirs dirigés vers les Blackhawks cette année. On a parlé de Nick Ehlers plus tôt. Les Jets, bon, qui ont perdu Ehlers. Qui en profite? Qui va se hisser sur ce premier trio-là chez Winnipeg et peut vraiment en profiter?
Ben, écoute, je pense que le naturellement, Cole Perfetti, qui est un jeune joueur qui est en hausse. C'est lui qui a été le plus utilisé de toute l'équipe des Jets quand Nicolas Ehlers a été blessé là, les trois premières semaines de décembre. Je pense que c'était Cole Perfetti qui a été le plus utilisé sur l'avantage numérique. On n'a pas profité à ce moment-là, statistiquement parlant, Mais ça nous donne une idée de où il était dans la hiérarchie une fois que Nikolaj Ehlers s'est parti. Maintenant, ben une année de plus derrière la cravate, plus d'expérience. Cole Perfetti est le candidat tout désigné pour prendre sa place autant à 5 contre 5 qu'en avantage numérique.
On l'a projeté à 57 points dans le cas de Perfetti, 23 buts. Comparé à l'année dernière, ça lui donne quoi à peu près?
7 points de plus, il a fait 50 points l'an dernier.
7 points de plus, OK, vois-tu. Puis là-dessus, comme tu dis, on a pris en compte le fait qu'il avait tenu à un moment donné beaucoup de temps de jeu là, dans le cas de Perfetti. Velarde aussi pourrait être, je pense, un joueur qui va progresser beaucoup. On l'a projeté à 71 points. Premier trio, jeu de puissance. Donc, encore là, une petite progression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, 61 points en 71 matchs. Donc, petite progression. Sinon, encore le 40 points pour Kyle Connor?
Le
40 buts!
40 points, ça confirme que oui, par contre.
Excuse-moi, Kyle.
Ben oui, écoute, la seule chose qui est le petit drapeau rouge, peut-être, là, c'est qu'on a perdu un Nikolaj Ehlers, un peu là, à l'instar des Maple Leafs avec Marner. C'est pas la même trempe de joueurs. Mais on a remplacé un Nikolaj Ehlers par Jonathan Toews et Gustav Nyquist. Donc, on n'a pas été remplacé ce que Ehlers apportait. On se dit, ce qu'on avait va être suffisant, mais on n'a pas ajouté. Donc, c'est quand même une petite perte qui va être difficile pour l'ensemble des joueurs, autant sur le jeu de puissance. Ça va être un petit peu plus difficile de reproduire les statistiques offensives qu'on a fait dans le dernier.
D'ailleurs, tu parlais de Toews, Seb. Je sais pas à quoi vous attendez. Moi, c'est certain qu'après, c'est quoi, deux saisons qu'il n'a pas joué, là, Jonathan Toews, deux ou trois saisons. En fait, sa dernière, c'est 2022-2023. Donc, c'est ça, deux saisons. C'est certain que ça risque d'être plutôt difficile. En tout cas, je ne m'attends pas à une domination comme retour au jeu. On dit qu'il est très en forme. On dit que ses problèmes de santé sont derrière lui. Mais reste que, quand même, moi, je ferai quand même attention avec Jonathan Toews. C'est pas un gars sur qui je me jetterais dans mon repêchage, même tard au repêchage. Je pense que j'attendrai, je serais prudent au risque qu'il ne soit pas repêché. Puis si personne ne l'a pris dans votre pool, ben s'il y a un bon début de saison, là, peut-être on vous le réclamez rapidement dans votre ligue. Mais je pense que ça sera pas simple après deux saisons d'absence.
Il y a des paris risqués dans des pools, mais là, on est plus loin que le pari risqué. Là. C'est qu'il y a la possibilité que vous le repêchez et qu'il ne vous donne absolument pas de production. T'sais, il y a d'autres joueurs qui peuvent vous donner du 45-50 points parce qu'on l'a projeté à 45 points. Il y a d'autres joueurs qui peuvent vous donner le même type de production, mais vous savez qu'ils vont jouer au moins 70-80 matchs. Dans le cas de Toews, c'est vraiment pas sûr. Dernière question sur les Jets. Connor Hellebuyck, est-ce qu'on va enfin lui donner un peu moins de départ? Est-ce qu'il va devenir un peu moins payant pour les Pooleurs? Ou vous avez l'impression que les Jets vont continuer à s'acharner sur lui tant qu'il ne sera pas, totalement épuisé?
J'ai l'impression qu'on va peut-être essayer de diminuer sa charge de travail. C'est pour la simple et bonne raison que ça fait là, deux saisons qu'une fois rendu en séries éliminatoires, le gâteau lève plus. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être diminuer un peu sa charge de travail, mais je m'attends pas à ce que ce soit de façon très, très dramatique. Là. L'année dernière, c'est quoi? Connor Hellebuyck, ça a été 63 départs. Peut-être qu'on va le descendre à autour de... peut-être quoi, 55, entre 55 et 60 départs. Je m'attends pas à quelque chose de majeur. Pour moi, il est encore une des meilleures options à sa position. Là. L'année dernière, les Jets ont connu une véritable saison de rêve. Je peux pas lui projeter 47 victoires. Pour moi, c'est non. Là. Je peux pas m'attendre à ce qu'un gardien que je repêche dans un pool fasse 47 victoires. Mais je mettrais peut-être la projection qu'on lui a faite, je pense que c'est tout près de 40 victoires, 39. Je me souviens plus exactement qu'on... J'ai pas la statistique sous les yeux.
C'est Yannick, 38 victoires, 6 blanchissages.
38 victoires, je trouve que ça s'apparente un petit peu à ce qu'on dit là, avec un peu moins de départ et une saison un peu moins magique des Jets, on tournerait peut-être autour de ce total de victoires.
Peut-être qu'on va avoir droit à une petite diminution de sa charge de travail juste avant ou juste après les Olympiques. Mais ce qui joue pour Color Elite. Pour ce qui joue beaucoup pour les Pooleurs qui ont opté pour Connor Hellebuyck, les Jets de Winnipeg ont le plus faible total de deux matchs en deux soirs de toute la Ligue nationale à 9 seulement. Donc, c'est pas un enjeu dans le sens où on. Habituellement, on sait que les deux matchs en deux soirs, bon, ben ça, c'est. Mettons, si une équipe en a 15, 14, 16, ben ça, c'est 16 matchs automatiquement que ce gardien-là n'aura pas. chez les Jets, il n'y en a que 9. Connor et les Bucks, on a toujours dit, Andrei Vasilevskiy a été la même chose. Ces gardiens-là veulent être devant le filet. Donc, on va tout faire pour le convaincre d'accepter de travailler moins, mais c'est difficile de convaincre ton gardien numéro un de ne pas aller devant le filet quand lui veut absolument y aller.
Fait que ce que tu dis, Sébastien, c'est que finalement, il va probablement avoir le même nombre de départs encore en raison de ces deux matchs en deux soirs-là que les Jets sont pas. Ah, c'est intéressant. Chez le Mammouth de l'Utah, équipe qu'on voit en hausse, équipe qui, je pense, en excite plusieurs avec l'acquisition de J.J. Peterka. Mais vous le voyez dans quel rôle, Peterka? Parce que oui, on est allé le chercher à Buffalo. Oui, on lui a donné un bon contrat, mais le jeu de puissance du Mammouth, ben écoute, il faudrait à ce moment-là déloger un Nick Schmaltz.
Barrett Hayton.
Ben non, mais pas sur la première vague.
Il s'alternait.
Non, mais cette année, ça devrait être Logan Cooley. Donc, à l'aile, il faut que tu déloges un Clayton Keller, un Dylan Gunter ou un Nick Schmaltz. Puis, tu sais, c'est pas J.J. Peterka qui va aller se placer devant le filet, c'est le travail de Nick Schmaltz. Fait que je suis pas sûr, moi, que Peterka va avoir du premier avantage numérique. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je suis d'accord avec toi, Nick. Écoute, c'est. Je pense que les gens qui pensent qu'à cause qu'ils se ramassaient en Utah va avoir une autre hausse de productivité. Il y a eu une très bonne saison l'année dernière, M. Peterka, mais son rôle va pas être augmenté. Il a joué beaucoup avec Tage Thompson l'an dernier. S'il se retrouve pas sur le même trio que Clayton Keller, ben c'est sans dire que c'est des pieds de céleri en Utah, mais c'était pas avec Clayton Keller, Dylan Gunter, c'est un trio qui a très bien fait, là, puis Cooley a terminé l'année ensemble, ça s'est très bien fait. Donc, ouais. Si on n'est pas ni avec Cooley, ni avec Keller, ni avec Gunter, Nick Schmaltz est très, très sympathique, mais c'est pas le même type de joueur qu'un Tage Thompson l'était à Buffalo et de ce trio-là. Faut être prudent là, quand il y a des acquisitions où on a payé un prix très raisonnable pour obtenir un joueur de sa trempe. Mais c'est un joueur qui ne va pas faire un bond de 15 points simplement parce qu'il a changé d'adresse.
Hugues, tu prends Gunter ou tu prends Peterka?
Je prends. Oh.
Il te lance une balle courbe comme ça, là, ouais, ça te prend une.
Je vais dire Gunter juste pour les raisons que Seb vient d'évoquer. Je pense que sa place sur avec les gros joueurs de l'Utah sont peut-être un peu plus assurés. Puis ça, c'en est un qui avait eu. Tout un début de saison l'année dernière, là, si vous vous souvenez bien, il marquait beaucoup de buts en début de campagne. Mais quand même, je crois qu'on va donner toutes les chances possibles à Peterka de faire bonne figure. C'est souvent comme ça avec les joueurs qui viennent d'être acquis par transaction. Mais moi aussi, je vois pas nécessairement une grosse hausse de production dans son cas. On l'a projeté à 70 points, J.J. Peterka, ce qui est 2 points de plus que ce qu'il a fait l'année dernière. Je pense qu'il était il fait 68 points, donc 2 points de plus, comme je disais, que l'année dernière. Donc ça reflète vraiment ce qu'on pense, toute l'équipe de LNH.com, c'est-à-dire que ça va être un peu du pareil au même pour lui.
Meilleure équipe, mais moins d'opportunités. D'ailleurs, on dit que le Mammouth est en progression. On voit Clayton Keller à 97 points. Logan Cooley, maintenant joueur d'un point par match à peu près à 80 points. Et Mikhail Sergachev, qui, à mon avis, est peut-être un défenseur à cibler dans vos poules. Si tout ça tombe en place pour l'Utah cette année, on le voit à 63 points. Donc, écoutez, si Karel Bezmelka, ça tient cette année devant le filet, le Mammouth, à mon avis, peut faire les séries éliminatoires. Et à ce moment-là, Bezmelka devient une option pour les poolers. On s'en va dans la section Pacifique. Bon, Mitch Marner, on en a parlé tantôt, s'en va du côté des Golden Knights. Quel impact, qu'est-ce qu'il va avoir? On l'utilise comment? Dans son cas, est-ce que tout de suite on le met avec Jack Eichel? Je lisais un texte l'autre jour, Bruce Cassidy qui parlait, puis il dit oui, il dit tout le monde m'en parle, mais ça se peut que ça clique pas. C'est pas impossible, c'est deux fabricants de jeux. Est-ce que ça va cliquer? Une chose est certaine, celui qui va jouer à gauche, que ce soit Pavel Dorofeev, qui je pense va être là, ou Ivan Barbashev, va. Écoute, place ta palette. Hein? Fais juste placer ta palette, on va s'occuper du reste.
Mais tu sais, on dit que Jack Eichel, c'est vrai que c'est plus un fabricant de jeu, mais reste que c'est un gars qui a déjà marqué avec les Sabres 36 buts dans une saison. C'est un gars qui l'a prouvé qu'il est capable de marquer des buts. Donc, moi aussi, je vois la combinaison naturelle entre Marner et Eichel. Il n'y a aucun doute que c'est pour ça qu'on est allé les chercher. C'est ce qu'on a en tête à Vegas de les mettre ensemble. C'est vrai que ça pourrait ne pas fonctionner pour toutes sortes de raisons. Mais quand même, je pense que Eichel pourrait se transformer en un, un gars un petit peu plus axé sur les buts avec la présence de Marner à ses côtés. Pas impossible selon moi. Je vois vraiment Marner plus comme le fabricant de jeux, mais Eichel, c'est un gars qui est quand même capable, qui l'a prouvé qu'il est capable de marquer une trentaine de buts par saison.
Moi, je pense que l'arrivée de Marner va faire passer Jack Eichel au-dessus du plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Il y a trop de talent sur le jeu de puissance. Ça va être quelque chose là, d'ajouter cette arme-là sur ton jeu de puissance qui était déjà dévastateur. Écoute, il y avait déjà le deuxième meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il marque 50 buts de plus en avantage numérique. Il y a des limites à ce qu'un jeu de puissance peut fournir, mais ça vient éliminer le fait qu'on passe le deuxième peut-être avec une petite baisse de régime. Non, ce jeu de puissance-là va rester l'un des meilleurs, sinon le meilleur de la Ligue nationale pendant cette saison-ci.
Et Dorofeev, à ce moment-là, est-ce que c'est un joueur que vous ciblez plus haut que même que notre projection? Vois-tu, on l'a mis Dorofeev à 60 points, 33 buts, on l'a mis à 60 points. Est-ce qu'il va être un peu le chanceux, le Matthew Nice de l'an dernier du côté de Toronto?
Ben écoute, ça c'est si il demeure sur la première vague d'avantages numériques, j'ai aucun doute qu'il va le faire. J'ai beaucoup de doutes qu'on va en retirer Mark Stone, Shea Theodore, Marner et Eichel. Donc ça se joue en Thomas Sertel et Dorofeev. Celui qui va être sur la première vague d'avantages numériques va avoir de très belles statistiques. Celui qui va être écarté, puis c'est toujours plus facile de dire aux jeunes joueurs qu'on va prioriser le vétéran jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Mais si Dorofeev est celui qui se retrouve à la gauche de Marner et Eichel, ben là, à ce moment-là, bon, ça va peut-être contrebalancer. Les courses au camp d'entraînement vont être très intéressantes à regarder. Thomas Sertel, c'est un gars qui est capable de se placer devant le filet en avantage numérique. Donc, c'est complémentaire un peu. Donc, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que ça va être très payant si c'est lui qui reste là. Dorofeev pourrait être une sorte de carte cachée parce qu'il s'est quand même un peu établi l'année dernière. Ouais. Mais oui, c'est un joueur qui a un profil très intéressant.
La première vague du jeu de puissance de Vegas. Moi, je pense qu'ils vont enlever Mark Stone, c'est mon opinion, parce que juste d'un point de vue santé, je veux lui couper un peu de ses minutes, mais je comprends ton argument. En défensive, chez Theodore, s'il peut rester en santé, il devient une excellente option pour les Poolers. Et là, il faudra voir ce que l'absence d'Alex Pietrangelo, bon, ça sent la retraite là, dans le cas de Pietrangelo, va représenter pour cette équipe-là. C'est la perte d'un leader, c'est la perte du meilleur défenseur, du défenseur le plus utilisé. Donc, dites-vous qu'Aden Hill là, va peut-être donner un petit peu plus de buts cette année. Lui qui n'a pas eu une très bonne saison l'année dernière, rien de spectaculaire au niveau des statistiques, surtout les statistiques avancées. Donc, ça va être à surveiller. Chez les Oilers, messieurs, Connor McDavid n'a pas remporté le trophée Art Ross l'année dernière. Est-ce que cette année, on revient un peu à la norme dans le cas de McDavid?
Ben, je crois que oui. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, Connor McDavid a joué juste 67 matchs et non pas 82. Donc, sur 82 matchs, ça aurait possiblement été beaucoup plus serré. Donc, une saison complète, je pense qu'il pourrait revenir assez tôt au passé où là, il était dans le 120 points. Puis, moi, je pense encore que Connor McDavid, malgré tout, est le meilleur joueur à cibler dans votre pool. Là, vous avez un pool annuel. Cassez-vous pas la tête. Overthinkez pas ça. Je m'excuse de l'anglicisme. Pensez-y pas trop. Là, prenez Connor McDavid. C'est le meilleur joueur de la planète. L'année passée, il a été blessé. Ça l'a possiblement ralenti un petit peu. Les Oilers n'ont pas connu un bon début de saison. Pour la deuxième année de suite, ça, évidemment, il va falloir éviter ça. Mais pour moi, il n'y a aucun doute que c'est le meilleur joueur disponible dans votre pool, peu importe le format.
Ben écoute, moi, tu ne me verras jamais gager contre Connor McDavid à 182 matchs. Jamais, jamais. Est-ce qu'il va... même à sa moyenne de points par match l'an dernier, en jeu 82, il est encore derrière Nikita Kucherov, mais les chances qu'il y ait un écart incroyable que Kucherov devant lui versus les chances que McDavid ait une avance de 50 points, c'est même pas comparable. Donc oui, vous prenez Connor McDavid. Et si Connor McDavid est en santé...
Même si son contrat risque d'être une bonne distraction à Edmonton cette année?
Ah, mais d'ailleurs, faut en parler, mais les années de contrat, souvent, c'est les années où les joueurs performent le mieux dans leur. Souvent, les joueurs ont la meilleure année de leur vie. Pensez, premier exemple qui me vient en tête, je me souviens bien, Nazem Kadri, sa fameuse saison de 94 points, c'était pas à une année de contrat, ça?
Ça se peut, ouais.
Tu sais, souvent, c'est un élément de motivation pour les joueurs, puis c'est pas rare qu'à une année où on tombe joueur autonome à la fin. Les joueurs connaissent la meilleure saison de leur carrière. Donc, le McDavid, mettons qu'il y en a déjà des bonnes de fait. Là, ça veut, je ne suis pas en train de dire qu'il va atteindre de nouveaux sommets parce que c'est assez solide. Mais pour moi, je comprends l'argument de la distraction. Sauf que, comme Seb a dit, moi, je parierai jamais contre McDavid et Draisaitl.
Est-ce que le trophée Maurice Richard appartient à Leon Draisaitl, selon vous?
C'est lié à la question précédente. Si McDavid joue 82 matchs, je pense qu'on peut commencer déjà à graver le nom de Leon Draisaitl sur le trophée. Quand tu as le meilleur passeur de la Ligue sur l'avantage numérique et un des meilleurs joueurs de tireurs sur réception, ben écoute, on a une combinaison gagnante.
Finalement, on termine la section Pacifique. Dernière équipe qui retenait un peu notre attention, les Ducks d'Anaheim. C'est une équipe qui est remplie de jeunes, qui a un nouvel entraîneur-chef en Joel Quenneville, qui a été chercher quelques vétérans. L'année dernière, cette équipe-là a été 30e dans la Ligue offensivement. Est-ce que cette équipe-là est capable de se hisser dans le top 20? Parce qu'on les voit, on en a parlé, puis dans les projections qu'on a faites. Honnêtement, là, on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé. On a fait nos projections, puis on est arrivé où 15 des 16 équipes qui allaient faire les séries éliminatoires étaient les mêmes que l'année dernière. Et Gabriel, avec qui on a travaillé, est allé faire l'exercice pour regarder ça, puis il a fait, écoutez, dans les 5-6 dernières années, il n'y a jamais eu plus que 13 équipes qui sont venues en séries éliminatoires, et ça descend jusqu'à 10. Donc, c'est impossible qu'il y en ait 15 sur 16 qui soient de retour cette année. On se doit d'en sortir. Et ça n'a pas été facile parce qu'on a éliminé les Sénateurs d'Ottawa. Et là, c'est une question, au niveau poolers, au niveau projection, ça ne change pas énormément parce que on a sorti les Sénateurs, ils vont terminer à 2 points des Rangers. On a mis les Rangers. C'est pas différent au niveau des projections. Les Ducks d'Anaheim, on les a mis en série et eux, c'est très différent parce que là, on parle d'une équipe qui doit aller chercher 5, 6, 7 victoires de plus. Donc là, on parle de quinzaine de buts de plus par année ou environ. Cette équipe-là, est-ce qu'elle est capable de se hisser dans le top 20, top 15 offensivement de la Ligue et qui va le plus participer à cette progression?
Écoute, tu as nommé 30e en attaque, ils étaient bons derniers et de loin en avantage numérique. Donc, c'était un chantier déjà. Ça explique de façon assez flagrante pourquoi on est allé chercher Chris Kreider, qui a fait son pain et son beurre en avantage numérique depuis des années. Une saison très difficile l'année dernière, de sa part, autant en 5 contre 5 qu'en avantage numérique. Mais bon, on fait le pari qu'un joueur comme lui, un joueur comme Alex Killorn, qu'on est allé chercher récemment, et la progression des jeunes. Même si on s'est débarrassé potentiellement de notre joueur le plus créatif en Trevor Zegras, on fait le pari que c'est une addition par soustraction. Donc, un nouveau coach, des nouveaux vétérans dans des rôles préétablis, puis des jeunes comme, tu as demandé qui va sonner la charge. Pour moi, c'est évidemment Leo Carlson qui va faire un gros pas en avant, selon moi. Mais dans la mesure où il ne va pas faire 85 points l'année prochaine. C'est une équipe qui passe de très, très loin et qui doit apprendre à marcher avant de courir. Donc, oui, il va être le chef de file dans des niveaux acceptables et raisonnables.
Hugues, toi, vois-tu d'autres joueurs se lever? Ben là, Maxime McTavish n'est toujours pas sous contrat au moment où on enregistre. Donc ça, c'est l'autre question parce que c'est un joueur qui est capable de tirer son épingle du jeu. Je ne sais pas, en avantage numérique aussi, à la pointe, il y a peut-être des joueurs qui vont pouvoir se signaler.
Ben, c'est sûr que en défensive, t'as des joueurs, t'as une lutte assez intéressante là, qui se dessine sur la première vague du jeu de puissance avec un Jackson Lacombe qui a vraiment bien fait la saison dernière, mais t'as aussi un Pavel Minchukov, un Olen Zellweger, les deux qui sont dans le portrait. Ça, c'est une situation qui est très difficile à départager qui va avoir l'avantage. Moi, je pense que ça va être Lacombe, mais est-ce que ça va être couler dans le béton pour toute la saison, est-ce que ça va être comme ça? Ça reste à voir. Je pense qu'on va peut-être, avec, tu sais, tu te dis, il n'y a pas une très bonne unité d'avantage numérique la saison dernière. Je pense qu'on va peut-être rouler avec le joueur qui offre qui permet à l'unité d'avoir le plus de succès. Est-ce que ça va être Lacombe? Est-ce que ça va être un autre? Ça reste à voir. Pour moi, l'autre élément super intéressant à Anaheim, c'est devant le filet avec Lucas Dostal. Tu sais, maintenant que John Gibson a été échangé, Lucas Dostal devient le gardien numéro un incontesté à Anaheim avec une équipe en progression. Moi, je me demande si Lucas Dostal pourrait pas, peut-être même dès cette saison, devenir s'imposer comme peut-être le meilleur jeune gardien à avoir dans votre dans votre pool à long terme. Là, je parle en termes de joueur qui va vous rapporter des dividendes immédiatement, qui est jeune et qui va continuer à le faire pendant des années et des années, un peu.
En se disant que les Dogs vont progresser.
Exactement.
Que les Dogs, c'est ça, ouais.
Exactement. Un peu comme ce que Jake Oettinger est devenu il y a quelques années avec les Stars quand il s'est imposé, devenu numéro un. Puis là, aujourd'hui, c'est un des meilleurs gardiens, sinon une des meilleures options, la meilleure option à prendre dans vos pools de hockey avec Hellebuck, évidemment. Est-ce que Dostal, ça pourrait être le début de ça cette saison? Moi, je pense que c'est pas impossible. C'est un très bon gardien. Ses chiffres le montrent pas nécessairement parce qu'il y a une très mauvaise défensive devant lui. C'est ça. Le seul hic, c'est que la défensive devant lui, c'est pas vraiment amélioré. Mais si l'offensive marque plus de buts, si on est plus dangereux, peut-être qu'il va arriver à signer un peu plus de victoires. Peut-être qu'il peut s'approcher du plateau des 30 victoires avec un volume de départ. S'il s'approche du plateau des 55-60 départs, ben là, peut-être que le plateau des 30 victoires est possible. Donc, moi, pour moi, c'est une situation qui va. C'est peut-être la situation une des situations qui m'intéresse le plus à Anaheim, aucun doute. Avec tout ce groupe de jeunes attaquants-là, les Carlson, les McTavish, les Cotter-Gauthier, qui va vraiment être capable de déclarer puis de vraiment comme s'imposer comme le fer de lance de cette offensive-là.
Oui, et la défensive va peut-être être un peu meilleure du fait que tout le monde va être un petit peu plus vieux.
Oui, effectivement.
Ça va peut-être aider aussi. Donc, écoutez, ben, on ne pouvait pas faire toutes les équipes. On ne pouvait pas passer à travers toutes les équipes. Là, ça aurait été un exercice qui aurait été beaucoup trop long. Donc, c'est vraiment les équipes qui ont retenu l'attention pour les Pullers. Messieurs, avant de terminer cet épisode, je vous amène sur ce qu'on appelle face-à-face. Je vous donne deux joueurs. Vous me dites lequel vous préférez. Je ne veux pas de longue explication. Je ne veux pas de un mot. Même, vous n'êtes même pas obligé d'expliquer votre choix. Vous me dites pour les points lequel va être le plus payant entre les deux pour les Pullers. On se lance chez les attaquants. Nathan MacKinnon ou Leon Draisaitl pour les points seulement?
Leon Draisaitl. Nathan MacKinnon sans Mikko Rantanen demeure un des top 5 joueurs. Mais sans Rantanen, je pense qu'on va de la misère à le voir se glisser avec Kucherov, McDavid et Draisaitl.
Ah, moi, je vais dire Nathan MacKinnon. Je pense qu'il va justement vouloir prouver à tout le monde qu'avec ou sans Rantanen, il est capable d'être même joueur dominant. C'est pas une excuse pour lui.
William Nylander ou Mitch Marner?
Moi, je vais avec facilement Mitch Marner, sans aucun doute.
Mitch Marner pour moi aussi.
Alexander Barkov ou Nick Suzuki?
Nick Suzuki pour l'absence de Matthew Tkachuk et le fait qu'il reste en santé comme pas un dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière.
Même raisonnement, Nick Suzuki, moi aussi, j'ajouterais qu'au sein d'une offensive qui va être létale, va être solide.
Macklin Celebrini ou Connor Bedard?
Ça va être serré, mais je vais dire Macklin Celebrini.
Je vais avec Macklin Celebrini, puis je vais ajouter que dans quelques années, on a beaucoup dit que Connor Bedard allait être un joueur générationnel. Moi, je pense que dans quelques années, on va revoir ce entre ces deux joueurs-là, le joueur générationnel, ça va être Macklin Celebrini.
Mieux entouré, à mon avis. Celebrini est déjà mieux entouré que Bedard.
Mieux entouré
avec...
et
à l'attaque.
Très, très, très convaincant.
Ouais.
Moi, je le trouve meilleur. Je trouve qu'il crée plus de choses par lui-même que Connor Bedard.
Plus complet. Puis, c'est l'implication physique, tout.
Ouais, ouais.
Mais plus tout.
Non, pas les instincts de marqueur purs et nets. Ça va du côté de Bedard. Mais...
Ouais.
C'est pas ça l'exercice. Je veux pas de négociation, je veux pas rien.
Faut bien s'astiner un peu quand même, c'est le fun.
Jack Hughes ou Nico Hischier?
Jack Hughes, sans hésitation. Mais il faut que ça santé, mais sans hésitation, Jack.
Ben, c'est ça, je te demande. Jack Hughes, avec ce qu'on connaît de son état de santé, ou Nico Hischier?
Jack Hughes.
Jack Hughes, sans aucun doute. J'y vais pour le potentiel, aucun doute.
Donc, vous auriez eu tort les deux l'année dernière, c'est ça que vous me dites?
Par combien de points?
C'est ça que je suis en train de vérifier. Là. Je vais te dire ça parce que je pense qu'Ishii a manqué un peu de match aussi.
Par un point. Ah non, Jack Hughes avait plus de points. On aurait eu raison, Nick. C'est ça que tu essaies de nous dire.
C'est ça, vous auriez eu raison, monsieur.
Yes.
Chez les défenseurs maintenant, Miro Heiskanen ou Thomas Harley?
Hey, ça, c'est mauvais. J'ai longtemps hésité. Je vais dire Thomas Harley, même si Miro Heiskanen est un de mes défenseurs préférés. Parce qu'il a montré qu'il pouvait prendre la relève. Puis si on veut le ménager, ben on n'est pas obligé de surtaxer Miro Heiskanen.
Je vais dire Thomas Harley aussi. Tantôt, je disais que Lacombe était un des joueurs qui m'a le plus impressionné l'an dernier. Harley aussi, vraiment solide.
Écoute, il va être un candidat pour le Team Canada, pour l'équipe Canada. Ben, assurément. Là, c'est pas rien, là. Evan Bouchard ou Quinn Hughes?
Quinn Hughes.
Ça dépend du format de votre pool. Moi, je vais dire Evan Bouchard.
Ah, toi, tu veux mettre les buts?
Ben, point, c'est sûr. Moi, je vais dire Quinn Hughes. Maudit. Je vais dire Evan Bouchard. Je pense que mieux entourer Quinn Hughes. Quinn Hughes, il y a beaucoup de points d'interrogation à Vancouver. Evan Bouchard en plus, je sais que tu ne veux pas qu'on en le dise, mais si votre pool compte les buts, il n'y a aucun doute, c'est Evan Bouchard avant Quinn Hughes.
Correct, tu as réussi à le glisser. Jacob Chychrun ou John Carson? J'en parle un peu plus tôt.
C'est Jacob Chychrun, je pense qu'on va voir une passation des pouvoirs. John Carson avait encore plus de temps en glace, mais Jacob Chychrun était plus efficace avec le temps qu'on lui a donné. Donc, à un moment donné, la réalité va s'imposer.
Chychrun, moi aussi.
Chez les gardiens maintenant, Adam Hill ou Andriy Vasilevskiy, victoire et blanchissage seulement?
À ce moment-là, Andriy Vasilevskiy. Je pense pas que Adam Hill va signer une tonne de blanchissage. Il va avoir beaucoup de victoires par contre. Mais Andriy Vasilevskiy, c'est trop une valeur sûre. Tu dois rester avec lui.
Oui, bien d'accord avec ça. Et Andriy Vasilevskiy, moi aussi.
Samuel Montembeau ou Linus Ullmark?
Samuel Montembeau.
Ouais, c'est ça, je m'en ai coupé la parole, mais moi aussi, c'est Samuel Montembeau.
Et finalement, Logan Thompson ou Darcy Kemper?
Dans les deux
gardiens qui ont vraiment eu un nombre de victoires incroyables l'année dernière, peut-être surprenant.
Ouais.
Là.
Je pense que Kemper est peut-être le mieux placé pour reproduire pour la simple et bonne raison qu'on disait tantôt qu'on voyait une régression à venir chez les Capitals, puis aussi peut-être évoluer un petit peu plus dans un système qui favorise les gardiens à Los Angeles. Donc, je vais y aller avec Kemper.
Oui, les Kings se sont, entre guillemets, améliorés. La perte de Gavrikov fait mal aux gardiens en premier lieu. Logan Thompson, parler des joueurs qui avaient eu les meilleures saisons de leur carrière avec les Capitals, ben Logan Thompson en est un. Donc, faire attention à ça. Donc, oui, Kemper, sans doute. Sans aucun doute.
Et voilà, on termine avec ça. Les gars, merci d'avoir été avec moi pour ce premier de deux épisodes de Spécial Poolers.
Oui, ça fait plaisir, Nick.
Ça a bien été.
On va souhaiter une bonne saison de pool, puis une bonne année de pool de hockey, en fait, à tous nos auditeurs, puis à vous aussi, les gars, Sabinic, pour vos pools respectifs.
Oui. Et comme je disais, dans le prochain épisode qui va paraître jeudi, on va avoir sujet recrues à surveiller, éclosion, cartes cachées. Donc, on va aller moins dans les équipes, vraiment plus dans les joueurs un peu plus parfois dans l'ombre. Donc, on va avoir, je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes pour vous. Donc, c'est à ne pas rater sur la tasse de café. Donc, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute pour être certain de ne rien manquer. Hugues, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.